Chapitre 5. Comment Bessie Pryor cessa d'être une jeune fille de quelque importance. Quand la vieille femme fut seule, elle se mit immédiatement à réfléchir pour déterminer quelle serait sa ligne de conduite. Céder et accepter le bonheur des deux jeunes gens, voilà qui ne se présenta pas un instant à son esprit. Encore et encore, elle se répétait qu'elle ferait son devoir. Encore et encore, elle se répétait qu'en permettant à Bessie et Philippe de se retrouver, elle avait négligé son devoir. Que son devoir exigea qu'elle les séparât, en dépit de leur amour, en dépit de leur engagement, même si le bonheur de toute leur vie devait en dépendre, elle ne douta pas un instant. Le devoir, c'est le devoir. Et c'était son devoir de travailler à la grandeur de la maison de Launay, afin que la vieille aristocratie puisse être préservée autant qu'il était en son pouvoir. Elle n'avait pas le moindre doute sur le fait que ce serait une bonne et pieuse chose que de les séparer, de forcer Philippe à épouser la jeune fille de Cornouailles et de pousser Bessie dans les bras de Mr. Morrison. Elle ne s'était jamais laissée aller à la facilité. Toute sa vie n'avait eu pour but que de conforter le pouvoir de son rang et de soulager les maux de ceux qui étaient en dessous d'elle. Elle n'avait jamais rien fait pour son propre plaisir. Comment se pourrait-il qu'elle accepte de changer toute la ligne directrice de sa vie afin de veiller sur le bonheur d'un jeune homme et d'une jeune femme? Cela ne devait pas arriver. Étendue là, seule, blanche et faible, mais l'esprit ferme, elle prit une résolution. Comme Bessie ne pouvait quitter la maison avant qu'on lui ait trouvé une place ailleurs, Philippe devrait partir. Et comme cela était la première chose à faire, elle envoya à nouveau chercher Philippe le même jour. « Non, mère, pas tant que vous êtes malade. » Voilà ce qu'il lui répondit dès qu'elle lui ordonna de quitter Launay à l'instant. Il ne venait pas à l'esprit de Philippe que la maison dans laquelle il était né et avait été élevé, la maison de ses ancêtres, la maison dont il avait toujours supposé qu'elle lui reviendrait dans le futur, lui soit interdite. Mais malgré sa faiblesse, Mrs. Miles finit par se faire comprendre. Il devait partir parce qu'elle le lui ordonnait, parce que la maison était à elle et non à lui, et parce qu'il n'y était plus le bienvenu tant qu'il n'aurait pas promis d'abandonner Bessie. « Mais c'est de la tyrannie, mère, » dit-il. « Je ne veux pas en parler, » dit Mrs. Miles en s'étendant sur les oreillers, émaciés, les joues creuses et le visage jaune des suites de sa longue maladie. Et semblant n'être réduite qu'à ses deux yeux qui le regardaient. « Je vous dis que vous devez partir. »« Mère !» Alors elle lui expliqua longuement les arrangements qu'elle avait imaginés. Il devait partir et vivre avec le très modeste revenu qu'elle lui proposait. Mais de toute façon, il devait partir et partir immédiatement. La maison était à elle et elle ne voulait pas de lui. Elle ne voulait personne qui pût y discuter sa volonté. Elle avait été une mère trop permissive pour lui et voilà ce qu'elle obtenait en retour. Elle avait eu la condescendance de lui expliquer ses intentions en ce qui concernait Bessie et il avait immédiatement décidé de s'opposer à elle. Quand elle serait morte et partie pour toujours, il aurait peut-être le pouvoir de ruiner la famille s'il en décidait ainsi. Elle y réfléchirait plus tard, mais elle, tant qu'elle vivrait, ferait son devoir. « Je suppose que je peux espérer, dit-elle, que vous quitterez Launay demain, juste après le petit déjeuner ?»« Vous voulez dire que vous me chassez de la maison ?»« En effet, dit-elle. » Et elle n'était que deux yeux le regardant intensément, avec sa chevelure grise sortant ébouriffée de la grande ruche de son bonnet de nuit, les joues jaunes et décharnées. Ses grandes mains étaient très maigres. Elle était passée très près de la mort et semblait, tandis qu'elle le regardait, en être encore très proche. S'il partait, il se pouvait qu'elle ne le revît jamais. « Je ne puis vous quitter ainsi, » dit-il. « Alors obéissez-moi. Pourquoi ne pourrions-nous pas nous marier, mère ? Je ne veux pas en discuter, vous le savez aussi bien que moi. M'obéirez-vous ? Pas pour cela, mère, je ne pourrais le faire sans me parjurer. Alors quittez cette maison à l'instant. » Elle était maintenant assise toute droite dans son lit, s'appuyant sur ses mains. L'image dans son ensemble était si terrible qu'il ne pouvait supporter de prolonger l'entrevue, et il quitta la pièce. Alors la vieille femme de charge apporta un message à Bessie, lui interdisant de quitter sa propre chambre. Ce fut ainsi que Bessie comprit que son grand péché était connu de toute la maison. Mrs. Knoll, qui dirigeait les domestiques, avait été avertie, et elle sentait maintenant qu'une sorte d'autorité sur Bessie lui avait été conférée. « Non, Miss Bessie, vous ne devez pas aller dans sa chambre. Elle dit qu'elle ne vous verra pas tant que vous n'aurez pas promis ce qu'elle vous a demandé. »«
Mais pourquoi, Mrs. Knoll ?»«
Eh bien, Miss, je suppose que cela a à voir avec Mr. Philip. Mr. Philip doit partir demain matin pour ne plus revenir. »
« Ne plus revenir à Launay ?»«
Pas tant que les choses restent comme elles sont, miss. Mais vous devez rester ici et ne pas sortir du tout. C'est tout ce qu'a dit madame. »
Les serviteurs de l'endroit appelaient tous Mrs. Miles, madame.
Mrs. Miles avait une telle autorité qu'elle parvenait à faire exécuter ses volontés, fût-elle étendue malade dans son lit, en tout cas en ce qui concernait la séparation des deux amants. Quand cet ordre avait été apporté par un serviteur, Bessie comprit qu'elle ne reverrait pas Philippe avant qu'il parte. Elle comprit qu'elle était tenue, de par sa position, de par la gratitude, de par le droit de propriété, à l'obéissance. Et pourtant, aucune autorité terrestre n'aurait pu la contraindre à renoncer à son serment. En la matière, même sa tante ne pouvait avoir sur elle la moindre influence, même sa tante malade et souffrante, même si elle était mourante. Son amour et son serment étaient tous deux sacrés pour elle. Mais sur le moment, elle fit acte d'obéissance et elle garda la chambre. Philippe vint à la porte, mais elle resta assise sans bruit et ne lui dit pas un mot. Mrs. Knoll, quand elle lui apporta à manger, lui demanda si elle comptait obéir à l'ordre qu'elle avait reçu.
« Votre tante réclame une promesse, Miss Bessie. »«
Je suis sûre que ma tante sait que je lui obéirai, » dit Bessie.
Le matin suivant, Philippe quitta la maison. Il fit porter un message à sa mère pour lui demander s'il pourrait la revoir, mais elle refusa.
« Je pense que vous feriez mieux de ne pas la déranger, Mr. Philip, » dit Mrs. Knoll.
Alors il partit, et Bessie, assise, entendit le bruit que faisaient sur le gravier les roues de la voiture qui l'emportait. Toute cette journée passa, et la suivante, et elle n'était toujours pas autorisée à voir sa tante. Mrs. Knoll répétait qu'elle ne pouvait prendre sur elle de dire si madame allait mieux. Sans aucun doute, les soucis des deux derniers jours l'avaient beaucoup troublée. Mrs. Knoll se fit une grande idée de son importance à ce moment, et elle pensa qu'elle venait maintenant devant Bessie pour tout ce qui concernait Launay. Et même si c'était singulier, il est vrai que toutes les sympathies allaient vers la vieille dame. Sa maladie en était sans doute la cause. Aussi aristocratique qu'elle ait pu toujours se montrer, tout le monde à Launay et Boscombe était si habitué à se plier à sa volonté que tout signe de rébellion chez qui que ce soit eût paru choquant. Et qui était Bessie Prior pour s'imaginer épouser l'héritier ?
Et même, qui était cet héritier supposé qui osait imaginer épouser quelqu'un contre l'avis de l'actuel propriétaire des terres? On l'appelait l'héritier, mais il ne devait pas nécessairement être l'héritier. Elle pouvait faire ce qu'elle voulait de tout Launay et de tout Boscombe. Et il y en avait pour penser que si Philippe continuait à se montrer obstiné, elle pourrait tout laisser à son fils aîné. Elle n'aimait pas son fils aîné. À cette époque, elle ne le voyait jamais. C'était un jeune homme du bel air qui ne lui avait jamais témoigné de respect. Mais il pourrait prendre le nom de Launay et la famille se perpétuerait aussi bien de cette façon-là. Philippe était très imprudent. Voilà quel était généralement le verdict du voisinage. Je crois que Launay apprécia cette période. Les troubles de notre voisinage sont généralement très supportables et tout sujet de conversation est une bénédiction. Launay apprécia cette agitation, mais quoi qu'il en soit, se sentait partagé entre des soupirs et une réprobation solennelle. Les filles de Mr. Gregory étaient solennelles, conscientes de l'iniquité de leur ami et très sensibles au danger auquel le pauvre Philippe se trouvait exposé. Quand arriva au presbytère la rumeur qui annonçait qu'un fiacre était monté au domaine, on imagina tout de suite que Mr. Jones, le notaire de Taunton, avait été appelé pour une modification du testament. Cette soudaineté, cette colère, cette perturbation de toute chose étaient terrifiantes. Mais quand on découvrit que le fiacre ne contenait que le docteur, tout le monde fut déçu. Le troisième jour, un message de Mrs. Miles arriva au recteur. Mr. Gregory aurait-il l'amabilité de monter voir Mrs. Miles? Alors on pensa au presbytère que la chère vieille dame allait encore plus mal et qu'elle avait envoyé chercher l'homme d'église afin de recevoir les dernières consolations de la religion. Mais une fois de plus, ce n'était pas le cas. « Mr. Gregory, dit-elle très abruptement, je veux vous consulter au sujet d'une demeure future pour Bessie Pryor. » « Doit-elle quitter celle-ci ? » ?»« Oui, elle doit quitter celle-ci, vous savez peut-être, pour elle et mon fils. » Mr. Gregory reconnut qu'il en avait entendu parler. « Bien sûr qu'elle doit partir. » Philippe ne peut pas être banni de la maison qui doit lui revenir, même si, en la matière, c'est probablement lui le plus à blâmer. Ils ont certainement tous deux été bien étourdis. C'est de la malignité plus que de l'étourderie, mais il a été le plus coupable. Il aurait dû considérer ceci comme son devoir, un grand devoir, et il aurait dû être le plus fort. Mais c'est mon fils. Et je ne puis le bannir. Oh non ! Mais ils ne peuvent rester ensemble. J'aime profondément Bessie Pryor, Mr. Gregory. Oh, je l'aime tellement ! Depuis qu'elle m'est venue, il y a maintenant tant d'années, elle a été comme un rayon de soleil dans cette demeure. Elle a toujours été douce avec moi. Le simple contact de ses mains m'est doux. Mais je ne dois pas sacrifier pour autant l'honneur de la famille. J'ai un devoir à accomplir, et je dois l'accomplir, même si cela me déchire le cœur. Où pourrais-je l'envoyer ? Pour toujours ? Eh bien oui, pour toujours. Si Philippe se mariait, bien sûr, elle pourrait revenir. Mais je préférerais tout de même qu'elle se marie en premier. Je ne veux pas la chasser, simplement elle doit partir. Je donnerai tout l'argent qui sera nécessaire, elle ne manquera de rien. Vous savez que j'avais bon espoir avec Mr. Morrison. Peut-être même pourrait-il arriver à la persuader, mais cela doit se passer ailleurs qu'ici. Où puis-je l'envoyer ? Ce n'était pas une question à laquelle il était facile de répondre. Mr. Gregory dit qu'il devait prendre le temps d'y réfléchir. Mrs. Miles quand elle lui avait posé la question, savait qu'il avait une sœur célibataire qui vivait à Avranches, en Normandie, et qui n'était pas très prospère.